Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous m'écoutez en podcast, je vous propose de découvrir deux initiatives visant à assécher les ressources publicitaires des sites internet et des médias qui diffusent des discours haineux et violents.
Je pense que ce type d'initiatives, comme Sleeping Giants ou la nôtre, sont vraiment essentielles parce que les promoteurs de haine et les promoteurs de complotisme en ligne sont souvent un business. On pense que ces initiatives sont des initiatives un peu, voilà, simplement militantes, mais il y a quasi systématiquement, notamment pour les plus grosses structures de promotion de haine et de complotisme en ligne, il y a toujours un business à côté.
Tristan Mendes France pilote Stop Hate Money, un projet porté par l'Observatoire du conspirationnisme. On l'entendra tout à l'heure sur la longueur. Mais d'abord, je vais vous parler de Sleeping Giants, les géants endormis. C'est un collectif de militants qui est né en novembre 2016 aux États-Unis, juste après l'élection de Donald Trump. L'objectif était alors de faire mal aux finances du site Breitbart, un média conservateur américain qu'on peut qualifier d'extrême droite et qui a joué un rôle certain dans l'accession de Trump à la Maison-Blanche. Alors comment s'attaquer au modèle économique d'un site ? Par exemple, en poussant les annonceurs à retirer leur publicité de ce site. On va justement voir que la publicité programmatique, c'est-à-dire automatisée, fait que les marques ne savent pas toujours où leur publicité s'affiche. C'est là qu'intervient le premier collectif dont nous allons parler aujourd'hui, Sleeping Giants. Il existe dans une quinzaine de pays, dont la France. J'ai téléphoné à Rachel, cofondatrice de Sleeping Giants France, qui commence par me raconter la genèse de la branche française de cet organisme. C'était en février 2017.
L'Atelier des médias.
Bonjour Rachel.
Bonjour Steven.
Vous êtes cofondatrice de Sleeping Giants France, donc la branche française de ce collectif Sleeping Giants, les géants endormis. Pouvez-vous me raconter la genèse du collectif en France ? Je crois que ça remonte à février 2017.
Tout à fait. Nous avons découvert, sans nous connaître, donc les cofondateurs ne se connaissaient pas avant d'entamer cette aventure. Nous faisions partie de ceux qui relayaient les tweets de Sleeping Giants États-Unis. Et à un moment donné, on a été contactés pour savoir si on était d'accord de fonder une branche française.
Donc ce sont les Américains qui vous ont contacté, vous, en vous disant bien ce serait peut-être intéressant de monter la chose en France et pas vous qui vous êtes porté candidat, si je comprends bien ?
Oui, tout à fait. C'est en fait la branche européenne qui était directement liée avec la branche américaine qui nous a contactés. Et non, ce n'était pas du tout notre initiative, mais on était d'accord pour le faire.
Alors, combien étiez-vous et combien êtes-vous maintenant, 4 ans plus tard ?
Au départ, nous étions 2 personnes. Et maintenant, pour la gestion du compte, on essaie de ne pas dépasser une poignée de main parce que sinon, ça devient trop compliqué de se relayer l'information de ce qui s'est passé, des choses qui restent à faire ou qui ont été faites. Et donc, on essaye pour la gestion du compte de rester un tout petit nombre.
Alors, quand vous parlez de gestion du compte, précisons que pour Sleeping Giants France, vous utilisez un compte Twitter, donc, et c'est avec ce compte Twitter-là que vous interagissez avec le grand public et avec les marques et les médias avec lesquels vous souhaitez traiter.
C'est tout à fait un compte Twitter, notons que nous sommes bien obligés d'également avoir un compte Facebook, pour la simple raison qu'en Europe, beaucoup de marques vont plutôt vers Facebook que vers Twitter, ce qui est le contraire aux États-Unis. Mais donc, nous les interpellons également via Facebook.
Alors, comment choisissez-vous vos cibles, entre guillemets ? Comment ça se passe, très concrètement ?
Tout à fait. Notre démarche cible la publicité et les placements publicitaires non consentis, donc qui sont le résultat de la publicité programmatique, et qui se retrouvent sur des sites ou des médias qui tiennent des propos extrémistes, qui sont particulièrement anxiogènes et haineux, qui souvent ont déjà été condamnés pour racisme ou incitation à la haine raciale. Et nous les alertons pour leur demander tout simplement, regardez, vous ne savez pas que votre publicité s'y affiche, est-ce que cela vous semble acceptable ou est-ce que vous préférez pas ? d'exclure ce site ou ce média de la possibilité de vos placements.
Donc si je comprends bien, vous tentez de moraliser, dans le bon sens du terme, certaines pratiques du web en faisant ouvrir les yeux de certains sur ces mêmes pratiques.
Je ne sais pas si c'est une question de morale qui est à la base de l'action. Il faut comprendre que la publicité programmatique, pendant très longtemps, a agi en toute impunité, si vous voulez. Il y a une genre de bulle qui s'est créée, où on pouvait faire beaucoup tout en gardant un contrôle assez important sur ses dépenses. Mais celle-là, cette quantité de façon indiscriminée, était au détriment de la qualité.
Ce que vous appelez programmatique, c'est en fait de la publicité qui est quasi automatique et qui souvent est diffusée par des grandes plateformes comme Google.
C'est tout à fait cela. Donc c'est vraiment quelque chose qui, pour l'annonceur individuel, est impossible à suivre. Il reçoit ses statistiques et il reçoit évidemment tout le bilan, mais il n'a aucune idée où s'affiche sa publicité ultimement. Donc notre démarche est une reprise de responsabilité et de contrôle que nous demandons aux entreprises de faire, surtout parce que elles investissent massivement dans des chartes éthiques, dans des chartes de responsabilité sociale, dans des fondations, dans des engagements pour la diversité. Et en même temps, leur publicité s'affiche à côté des propos tout à fait ignobles et abjects, voire illégaux.
Donc vous n'appelez pas à la censure. En fait, vous êtes simplement là pour tirer une sonnette d'alarme et faire qu'il y ait des actions concrètes de la part des marques qui par leur publicité, financerait des discours de haine en ligne.
Tout à fait, et cela à leur insu. C'est comme ça que l'idée est venue de créer Sleeping Giants aux États-Unis, puis en France et puis dans tous les autres pays. C'est de se rendre compte que des marques financent un discours sans le savoir et sans être d'accord nécessairement.
C'est-à-dire que quand bien même ces publicités ne tombent pas sur le coup de la loi, dans une dimension morale, éthique ou en tout cas de discours d'affichage de la part des marques, cela pose problème que ces publicités s'affichent sur des sites, on peut les citer, hein, comme en France Valeurs Actuelles ou comme aux États-Unis comme Breitbart.
Tout à fait. Surtout que, ultimement, c'est le consommateur également qui paye pour la publicité. Le budget marketing ne tombe pas du ciel. Nous payons pour une voiture. L'autre jour, j'ai lu les chiffres pour une marque française qu'il faut compter dans le prix d'achat d'une voiture, plus ou moins 1 à 1500 euros d'argent marketing. En fait, c'est tous les jours, nous payons ces publicités. Et si ces sites ciblent une grande partie de la population, de façon négative, c'est tout à fait en contradiction avec l'idée de les financer à travers la publicité.
Alors, votre objectif, c'est d'assécher les revenus publicitaires de ces sites. On pourrait citer, par exemple, en France, Boulevard Voltaire, hein, qui a été pendant longtemps une de vos cibles. Mais comment mesurez-vous, justement, votre succès ?
Quand il s'agit de publicité programmatique, on voit un déroulé assez systématique. Donc, en programmatique, pas chaque publicité ni chaque placement a la même valeur. Si vous avez des grandes entreprises qui s'affichent sur votre site, les retombées économiques sont plus importantes et votre placement, enfin, les placements que vous mettez à disposition augmentent également en valeur. Si les grandes marques se retirent une à une, vous gagnez moins d'argent, donc le fait d'afficher une publicité est moins rentable, mais également la qualité de vos placements est moindre et coûte moins cher, ce qui évidemment mène à un engrenage, c'est-à-dire votre site devient financièrement accessible pour des publicitaires de plus petits, qui peuvent se permettre, qui ont mis une limite maximum de ce qu'ils veulent investir, de s'y afficher. Donc la qualité diminue, les revenus pour le site, les médias diminuent, et ultimement, à partir d'un certain moment, vous voyez uniquement des pubs de troisième zone, voire carrément des spams ou des arnaques, ou des aberrations, des pubs qui viennent d'un pays tiers, dans une langue tiers, donc qui en fait n'ont rien à faire sur un site français en France. Il y a donc une gradation de à partir de quel moment ça n'est plus du tout intéressant pour un site d'avoir des publicités parce qu'il n'y gagne rien. Il ne sait pas remonter la pente parce que les grandes marques refusent de s'y mettre. Et comme Boulevard Voltaire, par exemple, a dû abandonner de servir de publicité non consentie. Boulevard Voltaire a eu deux ou trois publicitaires consentis, notamment le groupe identitaire européen qui a fait de la publicité sur Boulevard Voltaire. Évidemment, on ne va pas les alerter, c'est parfaitement consenti. Nous pensons que les consommateurs ou les lecteurs sont tout à fait d'accord avec ce placement, donc il n'y a pas lieu d'intervenir. C'est ce que nous souhaitons, c'est que qu'ils se financent avec l'argent qui est voué à être dépensé chez eux.
Racontez-moi une grande victoire de Sleeping Giants France.
Chaque échange positif avec un annonceur, avec une marque, est une grande victoire. Donc on en a quasiment tous les jours. Évidemment, on peut regarder dans le long terme, on peut regarder comment Boulevard Voltaire a appliqué plein de stratégies pour rendre notre action inefficace et que, ultimement, maintenant, ils sont sans la moindre publicité. On peut le voir également chez Valeurs Actuelles où on voit les processus d'engrenage de diminution de valeur de leur placement. On peut penser à Breizatau de Boris Lelay, qui était quand même servi par AdSense, qui finalement a perdu son compte Google AdSense suite à notre action. Ou même CNews l'année passée et cette année, avec des grandes marques qui se retirent de CNews ou de Paris Première à cause de la présence d'Éric Zemmour.
Alors,
tout est vraiment positif, c'est dur, c'est un travail ardu, mais notre attitude de base est positive.
Vous venez de parler de télévision, justement, vous venez de parler de CNews, qui est une chaîne d'information en continu française, qui est en train de devenir une chaîne de débat et qui donne la place à des conservateurs. Vous avez cité Éric Zemmour, qui a été condamné justement pour des propos racistes. Et selon CNews, les recettes publicitaires de la chaîne sont en hausse de 25%, alors même que les cases de l'antenne que vous, Sleeping Giants France, aviez visé donc autour de l'émission d'Éric Zemmour, quand bien même il n'y a plus de publicité autour de ce créneau-là, le reste de la chaîne semble quand même bénéficier de cette ambiance globale. Est-ce que ça ne vous inquiète pas, vous, justement ?
Il y a beaucoup de choses avec CNews qui nous inquiètent, mais pas cela. Parce que si leur chiffre est exact d'avoir augmenté de 25%, imaginez à quel point ils auraient pu augmenter s'ils avaient pu rentabiliser le créneau Zemmour.
Donc c'est ça pour vous, c'est une victoire, c'est-à-dire d'avoir réussi à ce qu'il n'y ait plus ou plus beaucoup de marques qui souhaitent associer leur notoriété à un programme dans lequel des propos racistes sont tenus.
Tout à fait. Et d'ailleurs, je peux vous donner en primeur, parce qu'on vient de le décider, parce qu'on a obtenu l'aide humaine dont nous avions besoin pour pouvoir le faire. Nous allons étendre notre démarche par rapport à toute la chaîne CNews et ne plus rester que sur le créneau Zemmour à partir d'aujourd'hui.
Alors c'est intéressant, vous parlez de cet engagement humain. C'est un engagement qui est à 100% bénévole ?
Tout à fait. Il n'y a personne chez Sleeping Giants qui fait autre chose que de donner quelques heures par semaine, par jour, c'est selon, à Sleeping Giants.
Et votre discours n'est pas uniquement négatif auprès des marques, c'est-à-dire que vous félicitez, on peut même c'est le terme qu'on pourrait employer, vous félicitez parfois certaines marques sur les réseaux d'avoir retiré une publicité sur un site appelant à la haine en ligne.
Tout à fait. Je pense que la communication positive est ce qui fait vivre Sleeping Giants. Nous sommes dans un monde où tout le monde souligne sans cesse les mauvaises nouvelles, les critiques, les jugements. Notre démarche ne veut absolument pas aller dans ce sens-là. On n'a pas envie de combattre la haine avec la haine. Ça n'a aucun sens. Nous avons envie de montrer qu'en fait, si au départ nous pensions que les annonceurs et entreprises français ne seront pas nécessairement sensibles à notre démarche, à notre grand étonnement, les annonceurs sont vraiment formidables et nous avons des retours positifs, nous avons des relations durables avec certaines marques, certaines agences. Donc, il y a beaucoup de positifs, en fait.
Et pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient vous rejoindre, comment procéder ?
Nous avons surtout besoin, évidemment, de faire passer le message, de contacter les annonceurs de façon polie, de retweeter nos tweets. Si quelqu'un veut vraiment s'engager, évidemment, il peut toujours nous contacter par DM, par message direct. Maintenant, il faut savoir que c'est du boulot. On s'engage selon ses possibilités, évidemment. Certains nous aident une fois par semaine, d'autres le week-end, d'autres tous les jours pendant une heure. Mais il faut savoir, c'est ardu. Il faut se confronter quand même à beaucoup de contenus qui sont durs à supporter, qui sont dégradants, en fait. Et tenir le coup, être de bonne humeur et de s'engager, effectivement, auprès de nous.
Et vous insistez sur la dimension anonyme, sur l'anonymat des membres du collectif Sleeping Giants.
L'anonymat est très important pour nous pour deux raisons. D'un côté, évidemment, ça garantit la sécurité, notre sécurité, la sécurité de nos familles. Nous recevons beaucoup de menaces de mort, d'insultes, de menaces, de violence. De l'autre côté, nous pensons que le message passe mieux quand il n'est pas lié à une personne, à un leader, charismatique ou pas. C'est beaucoup plus intéressant de faire parler le message et de ne pas attirer des followers ou du soutien parce qu'on aime bien la tête de la personne, du leader qui se met à l'avant-plan du mouvement.
Avez-vous l'impression qu'un jour vous pourrez déposer les armes ?
Dans le futur immédiat, non. Nous ne voyons absolument pas qu'il y aura un apaisement de la situation. Je pense que nous n'avons pas encore atteint le pic, si vous voulez, de cette évolution ici en France. Et donc, malheureusement, dans un futur immédiat, non.
Et l'évolution du marché de la publicité et des formats publicitaires ne complique-t-il pas encore davantage votre engagement ?
Oui et non. Je pense que nous venons de vivre une bonne décennie de, justement, de valorisation de plus et mieux. Et on en revient. Les marques aujourd'hui savent très bien qu'elles ne peuvent plus vendre qu'un produit ou un service, que le consommateur commence à regarder est-ce qu'elles sont écologiquement responsables, est-ce qu'elles évitent le travail des enfants, etc. Elles savent très bien qu'elles doivent s'engager, elles doivent être cohérentes. Le consommateur commence à regarder tous les aspects, notamment également la publicité et où est-elle placée. Donc nous voyons plutôt un revirement et on l'a bien vu il y a un an. Sleeping Giants a reçu un Lion d'or à Cannes par les professionnels du secteur. Donc, en fait, les annonceurs sont assez contents et c'est le retour que nous avons aussi tous les jours, que les annonceurs nous remercient.
Merci beaucoup à vous, Rachel, du collectif Sleeping Giants France.
Merci à vous nous vous souhaitons une excellente journée avec plein de bonnes pubs aux bons endroits.
À l'été 2018, a ainsi été lancée une initiative similaire nommée Stop Hate Money. Elle est portée par le site Conspiracy Watch. Et c'est Tristan Mendes France qui la pilote. Bonjour Tristan.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences associé à l'Université de Paris, spécialisé dans les questions de conspirationnisme et de diffusion de la haine en ligne. Pouvez-vous nous dire d'où est venue l'idée de Stop Hate Money ?
L'inspiration première, évidemment, c'est celle de l'initiative américaine de Sleeping Giants, qui a été vraiment un éveil de notre côté sur cette façon d'opérer et d'agir contre la haine en ligne. Donc Sleeping Giants, c'est vraiment une inspiration première. Ensuite, on s'est dit qu'on allait essayer de voir ce que nous, on pouvait faire ici en France, et notamment cibler des acteurs spécifiques que nous, on suivait déjà dans le cadre de l'Observatoire du conspirationnisme.
Et justement, cet Observatoire du conspirationnisme, qui rassemble-t-il ?
L'Observatoire du conspirationnisme est une structure qui accueille en son sein plusieurs initiatives. Le site conspiracywatch.info, qui est un site de ressources autour du complotisme en France et dans le monde. Il y a l'initiative Stop Hate Money que moi je pilote et qui dépend également de cette structure, et un autre projet qui vise les moteurs de recherche et qui vise à essayer d'empêcher que les gens s'enferment dans des bulles de filtres haineux à travers les moteurs de recherche comme Google et Bing, et ce projet s'appelle Riposte.
Où en est Stop Hate Money aujourd'hui ? Vos combats, quels sont-ils ?
Aujourd'hui, Stop Hate Money, c'est plusieurs enquêtes qui se sont déroulées sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et on a, depuis un an, on se focalise vraiment sur quelques cibles spécifiques. Notre objectif général, c'est vraiment de cibler les modes de financement, l'écosystème économique de certains émetteurs de haineux ou complotistes. Et on cherche à viser des plateformes peut-être assez inattendues, par exemple les plateformes sonores de musique comme Deezer et Spotify, qui accueillent des promoteurs de haine comme Alain Soral, par exemple. Donc on les interpelle. On interpelle la Fnac et Amazon lorsqu'ils vendent des objets qui sont soit complotistes, soit haineux. On focalise aussi beaucoup sur les plateforme de financement participatif. On a réussi par exemple à assécher une source de génération identitaire. Là, on interpelle très régulièrement la plateforme Tipeee, qui elle accueille encore aujourd'hui, malgré nos sollicitations multiples, un compte qui finance l'un des plus gros groupes QAnon français, cette mouvance extrémiste complètement déjantée et complotiste américaine, mais qui se développe ici en France. Eh bien, on interpelle ces différents acteurs avec une réussite. Parfois, ça marche pas toujours, et parfois ça marche. En tout cas, on laisse les entreprises décider et prendre leurs responsabilités, mais au moins on les met face à leurs responsabilités.
Justement, cette démarche est-elle, à votre avis, la meilleure, faute d'autres solutions aujourd'hui ?
Je pense que ce type d'initiative, comme Sleeping Giants ou la nôtre, sont vraiment essentielles parce que les promoteurs de haine et les promoteurs de complotisme en ligne sont souvent un business. On oublie souvent qu'on pense que ces initiatives sont des initiatives un peu, voilà, simplement militantes, mais il y a quasi systématiquement, notamment pour les plus grosses structures de promotion de haine et de complotisme en ligne, il y a toujours un business à côté. Un magasin de vente, des goodies qui sont vendus en ligne, des t-shirts, des abonnements, des paiements. Bref, il y a toujours un modèle économique. Et je pense que ce qui est intéressant avec ce type d'initiative, c'est qu'on met un pas de côté sur la liberté d'expression, et nos initiatives vraiment focalisent sur la responsabilisation des acteurs économiques qui sont impliqués dans le financement de ces discours de haine et de complotisme en ligne. Et là, en fait, on informe, c'est en fait un travail de transparence et de mise en responsabilité de ces acteurs économiques qui parfois ne le savent pas ou n'ont pas conscience de financer directement ou indirectement des discours de haine ou de complotisme en ligne. Donc je trouve que cette initiative qui est essentielle parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre.
Trouvez-vous que les gouvernements, et le gouvernement français notamment, s'intéressent suffisamment à ce genre d'action et y apportent un soutien financier ou autre ?
Alors, je pense que le gouvernement commence, ça fait depuis quelques années maintenant, quelques années, c'est assez récent, que le gouvernement commence à prendre conscience qu'il y a effectivement tout une action en ligne à mener sur le terrain de l'économie de la haine et des discours de haine en ligne. Le Parlement s'en est saisi à plusieurs reprises. J'ai même été auditionné d'ailleurs à l'Assemblée nationale, c'était l'an dernier, pour effectivement expliquer qu'il y a une responsabilité et une vraie question, une focalisation qui doit être menée sur les acteurs économiques qui favorisent ces discours de haine en ligne. Et je pense que le gouvernement commence, je pense qu'il n'en fait pas assez, toujours, mais bon, ça c'est normal que je pense cela, mais il s'y intéresse, je pense qu'il peut faire mieux.
Merci Tristan Mendès-France.
Je vous en prie.
Je rappelle que vous êtes maître de conférences associé à l'Université de Paris, spécialisé dans les cultures numériques. On approche de la fin de cette émission. C'est maintenant le moment de Mondoblog Audio qui donne la parole aux blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Cette semaine, on part au Mali avec Ousmane Machiavelli qui nous explique que le militantisme se développe aussi en ligne dans son pays.
Il y a lieu de s'interroger sur les activistes ou pseudo-activistes qui pullulent sur les réseaux sociaux au Mali. En suivant ces activistes web, on se rend compte qu'ils se limitent à des propos délateurs. Ils décrivent une situation déjà connue de tous et sont enfermés dans des critiques infécondes. Ils oublient d'imaginer des solutions ou même d'entreprendre des actions concrètes, mais protester sans proposer une alternative ne sert à rien. Pour d'autres, le militantisme en ligne est un moyen de s'enrichir. Ils dénoncent pour s'assurer les largesses des politiques dont ils véhiculent les propagandes. Pour eux, la notoriété numérique n'est qu'un gagne-pain. Ils se livrent au service des plus offrants. Ce sont des marionnettes qui alimentent des débats stériles. Faire de l'activisme en ligne pour la réputation et les opportunités, ce n'est pas ce dont le Mali a besoin. Le pays manque d'une armada de véritables activistes, des citoyens engagés qui produisent du contenu utile et éclairant et qui les partage. Avec du décryptage et de la vulgarisation, on peut faire évoluer les mentalités et inciter au changement des comportements. Il faut aussi proposer des solutions concrètes et agir. Le problème, c'est que beaucoup d'activistes évoluent individuellement et ne se soutiennent pas les uns et les autres, ce qui réduit la portée des luttes entreprises. L'absence de solidarité fait que les web activistes ne constituent pas une véritable force pour influencer les politiques ou mener une révolution sociétale. Le Mali requiert des gens qui s'unissent sur le web, qui créent des projets utiles. Le Mali a besoin de ceux qui créent des labs, des applications innovantes qui répondent aux besoins du peuple. Parce que être activiste, c'est agir, c'est initier des projets web qui facilitent l'éducation, aide à la promotion de la culture, appuie le secteur de la santé. C'est construire des startups qui créent de l'emploi. C'est grâce à eux que le pays pourra initier des actions concrètes de développement.
C'était Ousmane Machiavelli, citoyen malien engagé, que vous pouvez retrouver sur son blog machiavelli.mondoblog.org. C'est ainsi que s'achève cette émission. Simon De Creuse était à la réalisation, Camille Deloche derrière Mondoblog Audio. Si vous aimez l'atelier des médias de RFI, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast, de le noter et de le commenter constructivement sur l'application de votre choix. Apple Podcast, Castbox, Deezer, Podcast Addict ou encore Spotify. Écrivez-nous à l'adresse atelier@rfi.fr. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.